Bonjour, donc à France Nature Environnement, aujourd'hui vous êtes trois donc pour nous parler du traitement des déchets. Amélie Bruchère et Kélilia, donc stagiaire pendant 6 mois à France Nature Environnement, et Fanny en service civique pendant 8 mois. Bonjour à toutes les trois, et puis je vous laisse la parole pour cette émission qui va traiter des déchets.
Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Amélie. Je suis salariée de l'association France Nature Environnement 04, donc FN 04, qui est la fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement pour les Alpes de Haute-Provence. Et depuis 1973, notre association, elle agit pour la défense de l'environnement sur tout le département. Donc on a à cœur de nous impliquer et de mener à bien nos projets pour répondre au mieux à tous les impératifs environnementaux. On se consacre à plusieurs thèmes comme l'énergie, les déchets, la santé, l'environnement, les risques, la biodiversité, la montagne. Mais aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler des déchets. Et avant cela, je vais déjà laisser Fanny et Kélilia se présenter.
Oui, bonjour à tous. Kélilia, je suis en stage à France Nature Environnement 04 et je suis là pour ma mission principale, qui est de développer le projet Sentinelle de la Nature, que je vais vous présenter un petit peu plus tard.
Bonjour, moi c'est Fanny, je suis en service civique chez FN 04 depuis 8 mois. Ma mission principale, c'était la lutte contre le gaspillage alimentaire sur le territoire du Sisteron-et-Buèche. Donc au cours de cette mission, j'ai fait de nombreuses actions qui m'ont été confiées, comme par exemple la pesée des pertes alimentaires dans différents établissements, l'analyse du gaspillage alimentaire, la présentation des résultats et l'accompagnement des mesures à mettre en place pour diminuer justement ce gaspillage. Mes missions, elles étaient plutôt diversifiées, puisqu'on a aussi sensibilisé les enfants au tri et à la gestion des déchets. On a réalisé des ateliers pour réutiliser les chutes de légumes et manger sainement. Et on a aussi fait des animations dans des magasins, par exemple. Donc c'est également cette pluridisciplinarité d'activité qui m'a bien plu au cours de ce service civique. Ce projet avait pour but de couvrir le plus grand nombre d'acteurs et ça a été une réelle réussite.
Voilà, donc effectivement, le projet dont parle Fanny et dont ça a été sa mission principale pendant ces 8 mois, c'est un projet dans lequel la communauté de communes du Sisteron-et-Buèche avait souhaité s'engager, avec pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire sur le territoire à tous les niveaux de la chaîne alimentaire et auprès de tous les acteurs, que ce soit les écoles, collèges, lycées, cuisines centrales, EHPAD, hôpitaux, les distributeurs comme les grandes et moyennes surfaces, les restos, les agriculteurs, les particuliers, un grand nombre donc d'acteurs qui ont participé à ce projet. C'est un projet global qui a été lancé en 2019 et qui a été mené donc par la communauté de communes avec l'appui de FNE 04 sur 3 ans. L'objectif donc c'était de s'attaquer surtout aux sources de la production de déchets organiques, donc des déchets alimentaires, pour réduire dès l'origine les pertes alimentaires tout au long de la chaîne, que ce soit à la production, on peut avoir du gaspillage alimentaire, à la transformation, à la distribution et à la consommation. Donc comment est-ce qu'on a fonctionné? Dans la méthodologie qu'on a utilisée, c'est pour la restauration collective, on est allé faire une pesée de 1 semaine à la cantine pour déjà établir un diagnostic du gaspillage alimentaire. Donc on se rend à la cantine scolaire par exemple, mais comme on a dit, on était aussi dans les EHPAD, les hôpitaux. Et on est là sur le service du midi, voire du soir selon les établissements où c'est pertinent, pour peser tous les restes alimentaires, que ce soit les restes qui restent dans les assiettes des convives ou ce qui a été préparé en trop en cuisine et qui n'a pas été servi. Donc tout ça on pèse pendant 1 semaine pour avoir des résultats statistiquement représentatifs. Et puis on analyse ces résultats et on en fait un rapport qu'on va présenter ensuite à l'établissement concerné. Donc là, on fait une restitution des résultats, une réunion qui implique tout le personnel de l'établissement et ensemble, on co-construit un plan d'action. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons dire qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, on fait des recommandations. On voit ce qui est le plus adapté et ce que le personnel arrive à s'approprier et voir quelles sont leurs idées aussi en fonction du diagnostic qu'on a présenté. Et donc on met en place un plan d'action, c'est-à-dire que chacun s'engage à faire quelque chose pour réduire le gaspillage alimentaire dans cet établissement. Ensuite se passent quelques mois, on est toujours en lien avec les établissements concernés, on peut apporter de l'aide, comme de la sensibilisation des convives, apporter des outils, comme des fiches de suivi entre la cuisine centrale qui prépare à manger et les écoles. Et après, on revient quelques mois plus tard et on fait une nouvelle pesée pour évaluer les progrès qui ont été réalisés. Et donc, comme on arrive à la fin de ce programme, maintenant il est temps d'en tirer les conclusions et de voir est-ce que effectivement les actions menées ont réussi à réduire de manière quantitative le gaspillage alimentaire. Donc après avoir analysé toutes ces données, les avoir compilées, on a eu d'excellents résultats. On a eu 4 tonnes de gaspillage alimentaire qui a été évité sur une année. Avec tous les établissements qui ont participé, on a eu 57 structures qui ont été engagées dans cette démarche. Et au total, c'est quand même 4 tonnes d'aliments qui n'ont pas été jetés par rapport à la première pesée qu'on avait effectuée dans ces établissements. Le meilleur résultat en termes de baisse du gaspillage alimentaire qu'on a observé, c'est une diminution de 55% du gaspillage en un an. Donc c'est vraiment...
C'est pas mal du tout.
C'est très très important, 55%, c'est très important. Et on a aussi comptabilisé tous les déchets alimentaires qui ont été compostés au lieu d'être jetés, parce que normalement si on met les aliments à la poubelle, ça va finir à l'enfouissement. Et quand on accompagnait les établissements, on leur proposait toujours d'installer un composteur à l'école, à l'EHPAD, dans tous les établissements qu'on a accompagnés, pour que si jamais on n'arrive pas à réduire le gaspillage alimentaire à zéro, en fait on n'y arrivera jamais, il y a toujours des contraintes particulières qui font que le gaspillage ne peut pas être à zéro, on le réduit au minimum, et puis quand il est au minimum, et ben, tout ce qui reste, il vaut mieux que ça finisse quand même dans un composteur pour ensuite retourner à la terre plutôt que d'être enfoui. Et donc, ça, c'était les résultats globaux, mais j'aimerais aller plus précisément sur les différents types d'acteurs qu'on a accompagnés. Il y avait tout d'abord les établissements scolaires. Ça a été la plus grosse part de notre projet. Il y avait 19 établissements scolaires qui ont pris part à cette démarche, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée, donc sur le territoire du Sisteron-et-Buëch. Et pour chaque établissement, c'est un accompagnement adapté qui a été proposé. Dans certains, c'était la formation du personnel, dans d'autres, une sensibilisation des élèves, des recommandations quant au menu, aux quantités, à la manière dont on fait le service, dont on accompagne les élèves à manger aussi. Et la moyenne qu'on a eue sur les établissements scolaires dans la baisse du gaspillage alimentaire, c'est donc une diminution de 26%. Grâce à ces efforts fournis par les établissements scolaires dans la diminution du gaspillage alimentaire, il y a aussi 70% d'entre eux qui sont passés sous la moyenne nationale du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que l'ADEME nous a produit des données sur le gaspillage alimentaire à l'échelle nationale pour des établissements comparables. Donc on comparait toujours les résultats des lycée avec les résultats moyenne nationale des lycées, maternelle avec la maternelle, primaire en primaire. Et grâce à notre accompagnement, il y a 70% des établissements qu'on a accompagnés qui sont passés en dessous de la moyenne nationale, donc qui font mieux qu'à l'échelle nationale. Donc ça aussi, c'est très important de le noter parce que une diminution de 55%, c'est très très important, mais si avant on était à un petit peu de gaspillage, on ne peut pas avoir une évolution aussi marquante que la réduction de 55%, mais un passage sous la moyenne nationale, c'est déjà aussi très 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 chouette. Et donc à titre d'exemple, il y avait l'école des plantiers à Sisteron qui jetait initialement 145 grammes de nourriture par repas, soit 30% du repas, parce qu'on considère qu'un repas pour un élève, c'est à peu près 500 grammes. Et aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, il est passé à 66 grammes par repas, par personne, donc c'est plus que 10% du repas. On est passé de 30 à 10%. C'est quand même une baisse remarquable avec les efforts qui ont été fournis. Et donc Fanny, qui était sur ce projet tout au long, elle a aussi contribué à l'accompagnement des établissements scolaires. Qu'est-ce qui t'a marqué, Fanny, dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui a été le plus intéressant selon toi?
Donc effectivement, j'ai pu accompagner Amélie sur les pesées et les sensibilisations, par exemple, dans les écoles. Et j'ai trouvé que les enfants étaient très à l'écoute, donc très attentifs lors de nos sensibilisations. Ils étaient concernés par la protection de l'environnement et la gestion des déchets. J'ai remarqué que la future génération se préoccupe de notre environnement et prenait également plaisir à nous aider lors des pesées, par exemple. Donc, ils étaient très actifs dans ce projet et non juste passifs. Je pense que ce qui a marché le mieux, ce sont les sensibilisations. Nous avons aussi parlé des déchets aux enfants et montré des images choc. Donc, c'est ça qui fait percuter l'enfant, je pense. Par exemple, on a montré des images d'un oiseau rempli de plastique. On a montré le sixième continent, des poubelles remplies à ras-bord. Donc, ce qui aide à faire comprendre à un enfant l'importance d'appliquer le tri sélectif à la maison.
Donc ça, c'était à propos des sensibilisations scolaires. On a aussi fait un accompagnement des cuisines centrales. Les cuisines centrales, c'est quand la nourriture est produite dans un endroit, donc une cuisine, qui prépare pour d'autres établissements qui n'ont pas forcément de quoi cuisiner sur place. Donc ils sont livrés, que ce soit directement chaud ou froid et réchauffé. Mais tout est préparé dans cette cuisine. Et la problématique, c'est que la cuisine ne voit pas forcément si c'est bien mangé par les enfants. Ils n'ont pas forcément ce retour de qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, on a fait un diagnostic aussi à travers le projet. Et parmi les actions réalisées, on a instauré une fiche de liaison entre la cuisine centrale et les cantines qui sont livrées pour qu'ils puissent avoir un petit retour, que ce soit chaque semaine, chaque mois, sur qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui a été plus gaspillé, quelles sont par exemple les quantités qui pourraient être réduites ou augmentées. Vraiment ajuster en fonction du retour dans chaque école. Les chefs de cuisine centrale aussi, comme les chefs de cuisine des établissements scolaires, ont été formés à la cuisine végétarienne par une formation qu'on a proposée. Parce que depuis la loi Egalim, les restaurants scolaires sont obligés de fournir un repas végétarien par semaine. Et les chefs de cuisine n'étaient pas forcément formés à produire cette nourriture. Ils n'avaient pas forcément des idées de comment est-ce qu'ils pouvaient remplacer la viande. Et qu'est-ce qui peut tenir, par exemple, à la livraison chaude pour pas que ça continue de cuire, des choses comme ça. Ils n'avaient pas beaucoup de retours. Cette formation les a beaucoup aidés parce que ça pouvait aussi engendrer du gaspillage alimentaire si c'était pas cuisiné de manière sympa pour les élèves. On a aussi organisé une visite de la cuisine centrale parce que ça a permis au personnel des cantines et aux élus de voir comment ça fonctionnait et de peut-être enlever tous leurs a priori qu'ils avaient sur la cuisine centrale. Si on n'y va jamais, on se fait un peu des idées et on pense que c'est pas forcément préparé sur place, que c'est pas des produits frais. Et finalement, quand on visite, on se rend compte de comment ça fonctionne et on voit mieux pourquoi, enfin, comment est-ce que ça peut fonctionner. Et donc, grâce à cet accompagnement, la cuisine centrale de Sisteron, elle a connu une baisse du gaspillage alimentaire qui allait de 15 à 55% selon les cantines qui sont livrées. Ça, c'était entre 2019 et 2021. Et donc, au total, ça fait 1600 kg de gaspillage alimentaire qui a été évité chaque année. Et ça représente quand même une économie de 3500 euros parce que quand on cumule le coût d'achat des matières premières qui ont été évitées parce qu'elles n'ont pas fini à la poubelle, le fait de payer des personnes pour préparer ces produits qui auraient servi à rien, tout ça on a calculé et c'est une économie à l'année de 3500 euros quand même. Donc il y a un impact environnemental au gaspillage alimentaire, mais il y a aussi un impact en termes de coût. Très très important. Il y avait aussi les établissements médico-sociaux qu'on a accompagnés. On a fait un gros travail avec eux malgré le contexte sanitaire particulier. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'était pas facile pour eux de s'engager dans un projet de réduction du gaspillage alimentaire alors qu'ils étaient déjà très pris par ailleurs. Et ils ont bénéficié du même processus, donc des pesées et un accompagnement pour réduire le gaspillage alimentaire. On a proposé par exemple un changement du mode de service, une adaptation des quantités livrées. Voilà, toutes ces petites choses qui sont finalement pas si difficiles à mettre en place, mais qu'il fallait qu'on note et que l'établissement s'engage dans cette démarche pour remarquer et mettre en place des actions. Et par exemple, il y avait l'EHPAD du Foyer Soleil à La Ragne qui a réussi à diminuer en l'espace de un an le gaspillage alimentaire de 40%. Donc ça, on l'a pesé sur le matin et sur le soir, donc une réduction de 40% du gaspillage, c'est quand même très très important. Alors que les actions, finalement, elles paraissent pas si compliquées à mettre en place. Ça a été changé comment est-ce qu'on sert le repas. Donc, au lieu que tout soit servi en cuisine et ensuite livré sur assiette, on demande aux résidents est-ce qu'ils ont une grande faim, une petite faim. On adapte un petit peu en connaissant leurs préférences. Et parce qu'il y avait l'habitude, par exemple, de proposer tout le temps des soupes pour si jamais les résidents n'avaient pas envie du reste. Et finalement, ils ont réduit les quantités parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui n'était pas consommé, mais ils n'avaient pas forcément le retour parce que le soir, c'est sur plateau. Et donc, en cuisine, ils ne voyaient pas s'il y avait le retour ou pas. Donc, faire ce lien pour avoir l'information et changer un petit peu les habitudes et faire d'autres propositions de service. Et donc Fanny, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'accompagnement de ces établissements qui étaient un petit peu spéciaux quand même ?
Je pense que dans les EHPAD, c'était plus compliqué d'agir que dans les établissements scolaires, par exemple. Puisque j'ai remarqué qu'il y a déjà énormément de nourriture à la base et le public visé est difficile à convaincre. Donc la gestion de la nourriture, elle est compliquée dans les hôpitaux et les EHPAD en raison de la diversité des menus. Donc comme l'a dit Amélie, par exemple, avec la proposition de soupe. De l'état de santé des convives, donc qui ne veulent pas forcément manger tous les jours, qui n'ont pas le moral ou qui n'ont pas l'appétit, tout simplement. Et le personnel qui travaille dans ces centres, qui est déjà très sollicité. Mais on a remarqué que le résultat est là, donc il est quand même possible d'agir même dans ces établissements socio-médicaux.
Et puis, il y avait aussi les restaurants, donc la restauration commerciale. Il y avait 10 restaurants qui ont participé à notre démarche. Pour lesquels on a proposé un accompagnement pour identifier les sources de leur gaspillage alimentaire et peser. Donc on leur a donné la méthodologie pour peser le gaspillage dans leur restaurant et on leur a proposé un accompagnement pour savoir d'où venait le gaspillage chez eux. Et ensuite, il y en a qui sont allés plus loin. En 2022, il y a eu une formation qui a été proposée, qui a duré une demi-journée. Elle était complète pour vraiment sensibiliser aux démarches anti-gaspi et trouver des solutions adaptées au restaurant pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc vraiment adapté à chaque fonctionnement et aux contraintes de chacun. Et les 4 restaurants qui ont participé, c'était à Sisteron, c'était le Romarin, le Wenge, le Canap et le Pizzaiolo. Et suite à cette formation, ils ont pris des engagements parce qu'ils ont pu identifier qu'est-ce qu'il y avait à changer dans leur restaurant, et ils se sont engagés à changer ça dans leur resto et à appliquer ça directement. Donc on a noté ces engagements et on est revenu quelques semaines plus tard pour voir si effectivement ils avaient initié cette démarche. Et comme ils l'ont tous fait, pour reconnaître et valoriser leurs efforts, la communauté de communes et FNE04 ont distribué un label qui s'appelle « Commerce engagé contre le gaspillage alimentaire » que vous pouvez retrouver dans chacun de ces 4 restaurants. Parce que l'objectif, c'était du coup de valoriser et vraiment soutenir ceux qui font une démarche positive en ce sens. Et du coup, Fanny, est-ce que tu as trouvé que cette méthode, cette manière d'approcher les restaurants a été efficace ?
Oui, je pense que ça a été très efficace. De manière globale, tous les acteurs avec qui nous avons travaillé se sont investis dans le projet. Mais j'ai remarqué plus particulièrement les restaurateurs qui se sont sentis davantage concernés puisqu'ils ont remarqué qu'en évitant le gaspillage alimentaire, ils réalisent aussi de grosses économies dans leur restaurant, donc ce qui n'est pas négligeable. Et ça leur donne également une meilleure image d'être engagés, donc grâce au label de restaurateur engagé qui attire plus de clients par exemple.
Donc au-delà des restaurateurs, il y avait aussi les marchés. Il y a 3 marchés hebdomadaires qui ont été diagnostiqués. C'était le marché de Sisteron, de Laragne et de Serres. Mais sur ces marchés, on a relevé la préexistence de pratiques anti-gaspi et un réseau efficace de récupération des invendus qui existait déjà. Donc on a estimé qu'il était plus important de mettre nos efforts sur d'autres acteurs qui avaient plus besoin d'accompagnement et on n'a pas proposé d'action auprès des marchés. Il y avait aussi les agriculteurs. Donc pendant le projet, on a souhaité réaliser une étude de faisabilité pour la transformation des produits abîmés hors calibre ou en surproduction. Et c'était l'entreprise Pépineau qui voulait donc mettre en lien des producteurs qui avaient des produits abîmés hors calibre en surproduction et des transformateurs pour que directement sur le territoire, ces produits ne soient pas perdus Mais la mise en lien a été compliquée du fait de ce territoire très rural, de la difficulté de l'autoroute, enfin de la distance avec les transports et l'identification des agriculteurs qui étaient intéressés a été difficile. On a aussi souhaité organiser des actions de glanage. Le glanage, c'est récupérer des produits qui n'ont pas été récupérés par l'agriculteur parce que soit ils étaient de trop petite taille pour être vendus, ou ils étaient légèrement abîmés, ou le moment où il est passé, tout n'était pas encore mûr. Et donc, c'est des denrées qui n'ont pas été récoltées au champ et qui peuvent être récoltées par un groupe de personnes volontaires. On souhaitait organiser ça pour ensuite les donner à l'aide alimentaire. Mais on a eu pas mal de contraintes et ces actions, on n'a pas réussi à les mettre en place. Fanny, elle peut témoigner parce que c'est elle qui a essayé de contacter tous ces agriculteurs. Mais effectivement, on n'a pas rencontré le succès attendu. Ça fait partie des difficultés quand on mène un projet. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Fanny, quand tu as essayé de mettre en place cette action ?
Du coup, j'ai contacté le plus grand nombre d'agriculteurs dans la région, mais malheureusement, ça n'a pas été fructueux. Il y avait des contraintes, par exemple, les agriculteurs n'avaient pas assez de denrées alimentaires, déjà donc pour les redistribuer à une association, et leur parcelle n'était pas assez grande, et comme disait Amélie, il y avait la contrainte de la distance aussi, et peut-être les fruits et légumes n'étaient pas de saison. Voilà, il y avait plusieurs raisons qui ont fait que on n'a pas pu aboutir comme on voulait pour ce projet-là.
Oui, et ensuite, il y avait les grandes et les moyennes surfaces. On a travaillé avec 5 d'entre elles. Par exemple, on a organisé des animations au sein des magasins pour sensibiliser les clients aux pratiques anti-gaspi. On a réalisé des visuels qui informaient sur la date limite de consommation des produits. Et avec d'autres enseignes, on a contribué à la mise en valeur de l'espace de vente des produits à date courte.
Alors, est-ce que vous, Odile, justement, ça vous est déjà arrivé d'acheter des produits dont dans la date de péremption était très proche ?
Oui.
Et bien, du coup, c'est une bonne action anti-gaspi parce que ça peut être des produits qui sont en réduction parce que la date, elle va arriver. Et si on sait que c'est quelque chose qu'on va manger le soir même ou le lendemain, ça peut être une bonne idée de se diriger vers ces produits-là parce que sinon, ils auraient été jetés. Et donc, on fait en même temps une bonne action. Et puis, ça peut être pratique au niveau porte-monnaie aussi. Et on a aussi sensibilisé le grand public. Les actions de sensibilisation, c'était divers événements, comme des projections, ciné-débat, la présence sur les marchés, les foires du territoire, des ateliers cuisine, auxquels tu as participé aussi, Fanny. L'atelier cuisine, ça t'a plu aussi ?
Oui, et ça a plu aussi aux participants qui était là. Donc en 2021, en 2022, on a réalisé 2 ateliers de cuisine anti-gaspi qui ont été réalisés au Jardin du Buèche et à la MJC de la Ragne. Donc les participants, ils ont pu apprendre les pratiques à mettre en... Ils ont pu apprendre à mettre en pratique des astuces anti-gaspi. Donc ils ont pu apprendre à cuisiner plus sainement aussi, à réutiliser les chutes de légumes par exemple. Donc les ateliers anti-gaspi étaient aussi une bonne idée car les participants nous ont fait part de leur enthousiasme à la fin et ils avaient l'impression d'avoir acquis des nouvelles connaissances.
Donc voilà pour le récap de tous les bénéfices du projet qui a été mené sur la communauté de communes du Sisteron-et-Buèche dont nous sommes très fiers de ces résultats. Et ça montre que quand on met en place des actions parfois très simples de réduction du gaspillage alimentaire, et ça paye. Donc on va terminer cette partie sur le gaspillage alimentaire par une petite musique et ça va être La glace de Pigarenx.
Mais j'ai promis à ma chérie. plastique reste. Je traverse ces saisons avec la même petite veste. On perd le nord dans l'orchestre east-west. Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Oh, le monde est beau, ouais, celui-là, c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois, je fais de la merde, mais c'est jamais de ma faute. Car le problème sera toujours les autres. J'roule les R comme Jack. Les congés, j'connais app. Des congés, l'éponge. On abrège tous nos projets. Mais j'ai promis à Madjé de la faire voyager. Alors j'enchaîne scène sur scène et fume l'herbe qu'on m'a coupé sous le pied.
Voilà, retour avec Un moment pour la Terre.
Eh bien, on avait choisi cette musique évidemment pour le lien avec le plastique qui reste dans la nature. Plus exactement, le plastique qui peut mettre plusieurs centaines d'années à se dégrader et encore, il ne disparaît pas. Il devient juste de plus en plus petit, ce qui devient du microplastique. Donc la thématique des déchets, c'est justement ce que va aborder Kélia et je vais lui laisser la parole.
Merci. Odile, permettez-moi de vous poser une petite question. Vous est-il déjà arrivé de vous promener dans la nature et de vous retrouver devant une masse de déchets qui est abandonnée dans la nature ?
Ah oui, malheureusement, ça arrive. Ça arrive plus souvent que... Enfin, ça arrive trop souvent.
Oui, ça arrive à énormément de gens et malheureusement, les gens ne savent pas forcément comment réagir, comment alerter, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là et passent leur chemin et puis ces déchets-là restent là et puis polluent la terre. Donc là, je suis là aujourd'hui pour dire aux gens qu'on peut réagir quand on se retrouve devant une atteinte à l'environnement, que ce soit des déchets ou autre. On peut réagir, il y a un moyen de le faire. Nous avons un projet à France Nature Environnement qui s'appelle les Sentinelles de la Nature qui va permettre aux gens d'alerter sur ces atteintes à l'environnement. Donc qu'est-ce que Sentinelles de la Nature ? Sentinelle de la Nature est un outil cartographique qui a été créé en 2015 en Rhône-Alpes, qui a été d'abord dédié aux atteintes à l'environnement, qui est aujourd'hui déployé dans toute la France métropolitaine et en Guyane, et il englobe aussi les initiatives positives à l'environnement. Donc c'est un site internet et une application mobile qui permet aux gens d'alerter sur les atteintes à l'environnement ou les initiatives positives à l'environnement. L'application donc, elle est téléchargeable comme toute autre application sur le téléphone, sur Apple Store ou Play Store. Son but est d'être un soutien de proximité pour accompagner localement les citoyens dans leur engagement pour l'environnement.
Alors justement, comment ça marche plus spécifiquement ?
Donc on télécharge l'application sur son mobile par exemple et le signalement se fait en trois étapes. On est en train de marcher dans la montagne par exemple, on se retrouve devant des déchets. Ce qu'on va faire c'est aller sur l'application pour alerter sur cette atteinte à l'environnement. Donc ce qui se fait c'est la première étape c'est une localisation GPS qui est très importante pour avoir l'information de la localisation exacte d'où se trouvent ces déchets ou cette atteinte à l'environnement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prendre une ou deux photos pour illustrer un petit peu et qu'on puisse, nous, derrière à FNE, constater l'ampleur de cette atteinte. Et la dernière étape, c'est de faire une petite description en quelques mots, quelques phrases pour illustrer un petit peu ce qu'on voit, où est-ce que c'est, etc. Et puis, une fois que cette alerte est reçue par France Nature Environnement, il y a un traitement, une analyse qui est faite et il y a un retour systématique envers la personne qui a fait l'alerte qu'on appelle la sentinelle à partir du moment où elle a fait son alerte. Donc, le retour est dans un but premier et de guider la personne dans les démarches qu'elle doit effectuer pour ensuite faire l'alerte à l'administration ou à l'acteur local qui est responsable de cet environnement. Par exemple, si on trouve des déchets dans une commune, nous, on va guider la personne en lui fournissant les coordonnées, par exemple, de la mairie de la commune qu'elle doit contacter, des courriers types, etc. Donc, la guider vraiment dans cette démarche. Et aussi de l'informer des démarches susceptibles d'être entreprises par nous en tant qu'association protectrice de l'environnement.
Quels sont les objectifs de cette application ?
Donc les objectifs de cette application, comme je l'ai dit, c'est de dynamiser un petit peu la mobilisation citoyenne et des associations aussi. Exemple, des associations de randonneurs qui font aujourd'hui des choses, qui ramassent, etc. Mais quand ils tombent sur une très très grosse quantité, malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Et là, on est là pour dynamiser ces actions-là et les inciter à faire de la veille écologique, en fait. Ensuite, on est aussi là pour appuyer la démarche du citoyen envers les administrations. En tant qu'association de protection de l'environnement qui a quand même un certain poids, on est là aussi pour appuyer leur démarche de signalement. Ensuite, on veut aussi améliorer et la prévention de ces atteintes à l'environnement. On veut prévoir ce genre de choses et les résorber au plus vite. Et puis créer aussi une vision globale au niveau du territoire, donc voir quelles sont les atteintes à l'environnement qu'on enregistre au niveau des territoires. Cela permet d'avoir les enjeux environnementaux du département. Donc si on sait quelles sont les contraintes que subit notre département, par exemple, à ce moment-là, on connaît ces enjeux. Donc toutes les associations de protection de l'environnement et les acteurs locaux, les différentes administrations peuvent travailler pour ces enjeux-là, pour justement réussir à faire du travail intéressant dans le cadre de ces enjeux-là. Et puis, on veut aussi permettre de mutualiser un petit peu toutes les informations et pouvoir les partager entre les associations, les citoyens, les administrations, etc.
Pour ces sentinelles, cette mission des sentinelles, évidemment, c'est pas juste pour un papier de chocolat qu'on trouve dans la nature. C'est plus pour les si c'est devenu comme une déchetterie. Exact. Où les gens jettent leurs poubelles. Enfin, il faut que ce soit quand même plus abondant, j'imagine.
Exactement. C'est plus, oui, c'est des décharges sauvages, comme on appelle ça, c'est des décharges sauvages où, en général, ce qui est connu, c'est les déchets du BTP, par exemple, où parfois il y a la présence de l'amiante qui est très dangereuse, etc. Mais il n'est pas l'application n'est pas spécifique aux déchets. On parle aujourd'hui des déchets parce que c'est le thème principal et surtout, il y a énormément d'alertes qui sont liées aux déchets, mais elle est liée à différentes atteintes à l'environnement. Si on trouve, par exemple, des coupes rases d'arbres et on sait qu'il n'y a pas forcément d'autorisation, on peut alerter pour ce genre de choses. Des assèchements de zones humides avec des fossés, etc. On peut faire des alertes, donc tout type d'atteinte à l'environnement, mais aussi des initiatives positives, comme je l'ai dit, peuvent être alertées, ce qui donne un petit peu d'espoir derrière.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur la mise en place de ce projet ?
Oui, tout à fait. On a quelques difficultés. Donc la première qui est de faire connaître l'application et d'inciter les citoyens à l'utiliser, ce qui est aujourd'hui un petit peu difficile. Et il y a aussi la difficulté de communication avec les autorités locales parfois. Parfois, c'est juste la difficulté de retrouver les coordonnées des bonnes personnes à contacter en cas d'atteinte. Et aussi, parfois, on a un petit blocage qui est celui de récolter les informations des actions entreprises. Quand une alerte est faite, par exemple, pour une décharge sauvage, et cette décharge-là a été nettoyée, parfois, on ne sait pas qu'elle a été nettoyée, parce que si la personne qui a fait l'alerte n'est pas du coin, elle ne va pas revenir pour vérifier que cela a été fait. Et nous, aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à avoir des retours de la part des autorités qui font le nettoyage, par exemple.
Est-ce que vous avez des chiffres clés sur ce projet ?
Oui, aujourd'hui, en France, il y a environ 3000 signalements par an, au niveau national, et dont, par exemple, 255 pour l'année 2021 dans notre région, province Alpes-Côte d'Azur, dont 72% qui sont liés à des décharges sauvages. Comme je vous l'ai dit, les déchets, c'est vraiment l'atteinte qui est la plus répandue dans la région, par exemple.
Donc ça fait pas mal de constats.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'application, malheureusement, elle n'est pas très, très utilisée dans notre département de province des Alpes de Haute-Provence, pardon. Elle n'est pas très utilisée. Par exemple, depuis le début de l'année, on a eu 13 alertes Donc en 9 mois, on n'a eu que 13 alertes, dont 6 pour des décharges sauvages. Donc environ 50% des alertes sont pour des décharges sauvages. Le souhait aujourd'hui est de la développer justement et que les citoyens prennent à bras le corps cette problématique et qu'ils deviennent des acteurs actifs dans la protection de l'environnement.
Voilà, du coup, on va passer à la dernière pause musicale et puis après, on vous présentera les prochains rendez-vous de l'association.
Millions in California are dealing with the dangers of extreme heat and rapidly spreading wildfires. 103 degrees in downtown Los Angeles, 112 in Burbank, as climate change continues to yield record temperatures.
Get out of the road!
Relax, dude.
The bus overheated or something.
We've been out here for 4 hours. Can we just please come and
shut up, dude? No. Get him in the trash.
Hey, get him in the trash. Get him in the trash.
Three, two, one. Oh!
Damn.
You guys tried to throw me in a trash can.
Pick it up, dork.
What did you just say?
I said pick it up, dork.
What? Hey, are you little Dicky?
Yeah. Oh. Hello.
Yo, little Dicky, my brother thinks you suck.
Okay, your brother probably sucks. Look at how you turned out. You're a rat. Your whole household is probably completely mismanaged.
Hey, suck my butt, little dicky.
Suck your butt? How about you take that perfectly round head and suck my butt? How about that?
Oh! Hey, police!
Pick up the trash.
He's trying to eat our butt!
There's an environmental crisis right now, and you're just gonna litter on the street? Grow up.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say,
get you fucked up.
And I'm Kanye West.
We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth.
Ba-dum, ba-dum, bum, ba-dum, ba-dee. We are the vultures, feed on the dead. Just some rhinos, horny as heck.
I'm just a giraffe, what's with this neck?
Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about there, up and down with you?
I'm an elephant, I got junk in my trunk.
What the fuck, I'm a clam?
I'm a wolf.
I'm a squirrel looking for my next nut.
And I'm a pony, just a freak horse.
Yeah. But,
come on, get on.
Yeah,
giddy up, let's ride.
I'm HPV.
Sleep all the time, so what? It's cute.
We love you, India.
We love you, Africa.
We love the Chinese.
We forgive you, Germany.
Earth, it is our planet.
So
we love the earth.
We love the earth.
It is our home. We love the earth. It is our planet.
It is our planet.
We love the earth. It is our home. We love the earth.
so damn long and still don't know shit.
What's going on?
I hope it's not a simulation.
Huh.
Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, hey. Respect what we built.
Hey.
Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come when you have sex.
Hey.
And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we gotta land for, what we gotta stand for?
Love.
And we love.
Love the Earth, de tous, nous aimons notre planète et c'est pourquoi il faut être acteur pour l'environnement.
Et voilà, les prochains rendez-vous que j'ai à vous proposer pour être acteur de l'environnement, c'est samedi 1er octobre, donc ce samedi, on sera à l'événement J'agis pour la nature à Entrepierre, donc c'est un événement qui est organisé par la commune. Le matin, il y a une gratifoire, c'est-à-dire qu'on ramène des objets gratuits qu'on va pouvoir échanger. Et l'après-midi, c'est un ramassage de déchets, notamment dans les cours d'eau. Et FNE04, surtout Kélia, présentera l'impact des déchets sur l'environnement et mettra en avant l'application Sentinelle de la Nature.
Ce sera quand ?
Samedi.
Ce samedi-là.
Ce samedi, 1er octobre, à Entrepierre.
D'accord.
On sera aussi à l'événement qui a lieu le 7 et 8 octobre à Barcelonnette. Ça s'appelle Climalp Sud, donc c'est sur deux journées. Il y a des conférences scientifiques, des tables rondes, un ciné-débat, le forum de la transition, des ateliers de réflexion, de formation, d'écriture. C'est un travail collaboratif entre les citoyens, les assos et les scientifiques avec l'objectif de partager les solutions et les actions pour contribuer à la transition globale du territoire. Donc 7 et 8 octobre à Barcelonnette. Prochain événement de notre part, ça va être aussi le 26 octobre à 17h30. On fera un apéro hérisson. C'est un moment d'échange convivial où on accueille toutes les personnes qui sont intéressées pour devenir bénévoles dans l'association. Le lieu, il reste à confirmer, mais ce sera probablement à la mairie d'Aimé. Et si entre-temps, d'ici là, vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment être bénévole et comment participer à la vie de l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet qui est www.fne04.fr ou à nous contacter directement par email contact@fne04.fr. Autre événement, alors ça c'est un petit peu dans le futur, ça va être le mois prochain, mais j'en parle déjà parce qu'il est très très intéressant. C'est la microforêt, on va planter une microforêt à la Butinerie, qui est notre espace de préservation de la biodiversité. On en fera une émission dédiée pour la microforêt, mais je vous annonce, dans les grandes lignes, c'est une forêt qui est très très dense et qu'on va planter en début décembre, donc le 2 et 3 décembre. Et on fera un chantier participatif aussi pour préparer la plantation de la microforêt. Ce sera la semaine du 7 novembre. Et pour ça, vous pourrez aussi participer. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@fne04.fr pour avoir toutes les informations. Et dernière info, c'est que nous sommes ravis de vous annoncer que le projet Alpatou a été sélectionné pour les prochaines rencontres pour la planète. Les rencontres pour la planète, c'est un rendez-vous annuel des assos et mécènes qui font partie de 1% pour la planète et qui permet de lever des fonds pour réaliser des projets environnementaux importants. Et à cette occasion, donc le 12 octobre, on présentera Alpatou devant un collectif d'entreprises pour pouvoir financer notre projet. Donc souhaitez-nous bonne chance.
Bonne chance et merci, merci à toutes les trois donc pour cette belle émission encore. Et puis au mois prochain, au revoir.
Merci
au revoir.
Beaucoup, au revoir.
Merci.